Salut, moi c'est Anas Ghali et bienvenue dans mon nouveau format 3 conseils d'architecte. Dans ce podcast, je vais demander aux professionnels 3 conseils pour mieux réussir en tant qu'architecte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Nadeau, un architecte engagé qui va à la rencontre des gens afin de proposer une architecture véritablement ancrée dans le réel. C'est aussi un architecte décoré, lauréat du prix 40 Under 40 qui récompense chaque année 40 des meilleurs jeunes architectes. C'est quoi ton premier conseil d'architecture ?
Premier conseil d'architecture, je pense qu'on est en train d'échanger un peu en amont, mais la question de l'honnêteté envers soi-même et envers les gens.
Ouais.
Donc moi, être honnête avec soi-même, savoir où on veut aller, pas faire semblant d'être ce qu'on n'est pas.
Ouais.
On a tous une histoire, on vient d'un lieu, d'un endroit, d'un territoire, on a une famille, quelle qu'elle soit. Donc on est tous différents, mais pas avoir peur d'assumer ses différences et de foncer, quoi. Foncer, vraiment, moi, c'est ne pas douter de soi-même, même si tous les jours on est pétri de doutes, on construit des bâtiments, enfin, on essaye de le faire du moins. Ouais. Grande honnêteté envers soi-même, envers les autres, respecter le respect. Là, quand tu me poses cette question, je pense aux entreprises.
Ouais.
Sans les entreprises, on n'existe pas. Donc déjà, respecter les gens qui nous aident à construire nos idées, nos délires, nos envies, hein, nos rêves, hein, parce que ça part de ça. Je pense quand on est enfant, quand on est touché par ce métier, je pense que ça vient de loin. Et quand ça se réalise et qu'on se dit vraiment, on fait consensus à l'intérieur de soi-même, on veut être architecte, quand on l'a décidé... Sans les entreprises, n'existe pas. Donc, ouais, gros respect aussi des gens.
Et comment tu l'abordes, en fait, l'honnêteté dans tes projets, dans ta pratique, ce que tu as fait dans le quartier ?
Alors, moi, je l'ai abordé d'abord par l'amour des matières. Je pense vraiment, en premier lieu, les agences qui m'ont touché depuis toujours, que ce soit des architectes, hommes et femmes confondus, toutes les échelles possibles, c'est des gens qui aimaient les matières. Donc, vraiment, quand je me promenais dans la rue... Venant de Bordeaux, étant touché aussi, ayant vécu à Paris, la question de la pierre, de ces bâtiments traditionnels, patrimoniaux, hein, qui sont intégrés, donc la connaissance des matières. J'étais touché par ces agences qui mettaient la matière au cœur de tout, qui créaient espace par la matière. Jacques Lucan parlait de phénoménologie, mais c'est ça, quoi. C'est la matière qui fait foi. Donc honnêteté vis-à-vis de la matière qu'on utilise. L'amour de la mise en forme de cette matière. Donc, pour moi, c'est le sens de tout ce que je fais. Donc voilà, honnêteté des gens en comprenant le site et la matière qu'on va utiliser. Des fois on le fait à bon escient, des fois non. Je pense qu'on a besoin de tester aussi des choses avant de comprendre vraiment comment on utilise les matières, de bien les saisir. Tu vois, aujourd'hui moi j'ai 43 ans, mais je pense que j'abordais pas les projets de la même manière il y a 10-15 ans et aujourd'hui, et j'espère que je les aborderai pas de la même manière dans 15-20 ans, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, revenir à cette honnêteté, on s'est installé dans un quartier à Bègles qu'on aime vraiment, les Terre-Neuve. C'est un choix. On a réhabilité un bâtiment pour faire notre agence. On est sur les toits, donc on est un peu dans le ciel. Donc prendre un peu de recul par rapport à toute l'énergie de la ville pour se dire, voilà, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. J'appelle pas ça une deuxième vie, mais voilà, on a monté une association avec le collectif des quartiers à Bègles, une association qui s'appelle Gotham, qui traite un peu des enjeux de comment on réhabilite des quartiers anciens, et les réintégrer dans la vie contemporaine. Il y a eu des démolitions de tours qui ont marqué les gens. Moi, je ne juge pas ces démolitions. Elles sont intervenues avec l'ANRU dans des choix politiques. Aujourd'hui, on est là, dans ces quartiers. Comment on vit le présent et comment on voit l'avenir ? Avec la jeunesse, la transmission, je pense que dans nos métiers, on parlait des entreprises, c'est primordial. Comment les entreprises transmettent les gestes ? Comment des architectes peuvent intervenir avec leur façon de faire dans l'espace public ? Ce lien qu'on a en commun. Donc moi, voilà, l'honnêteté, c'est assumer que l'espace public, il a tout le monde, qu'on est dans une société extrêmement difficile à vivre dans les différences de classe, et que je pense que l'architecture, elle est là aussi pour créer des espaces qui sont donnés à tout le monde. Tu vois, c'est les marchés publics sont là pour ça,
ouais.
Les politiques et les communes sont là pour créer des lieux ouverts aux gens, mais j'espère que les investisseurs privés vont... Et je pense que c'est en train de bouger, hein, quand on voit tous les tiers-lieux, tout l'avènement des nouvelles façons de vivre les espaces, de vivre les espaces réhabilités surtout, de vivre avec le déjà-là. Je pense qu'on va dans une société, je l'espère, post-crise, là, dans un revirement positif de vivre ensemble et de remise à plat de l'espace public.
C'est important. C'est ça qui m'anime aussi, c'est... de transmettre un optimisme, même quand on est dans des petits moments difficiles.
C'est ce qui m'a plu quand tu m'as contacté.
Ouais.
C'est-à-dire que le premier truc que tu m'as dit, c'est voilà, j'ai envie d'être positif, et ça m'a touché. Parce que c'est vrai qu'on a des moments où, voilà, mais c'est pas que les architectes.
Hein. Non, la vie, elle est dure pour
la vie en général.
Pour tout le monde, mais...
Avec tout ce qui se passe, la conjoncture politique, sociale, qui est très anxiogène.
Ouais.
Du coup, c'est ce côté anxiogène se reflète un peu partout, le matin au travail, avec nos équipes, la tension post-Covid, comment on a envie de vivre un peu plus pour soi à des moments. Et au final, après 2-3 ans post-Covid, je trouve que le vivre ensemble reprend forme.
Ouais.
Et c'était bien de vivre pour soi, c'est sûr. Ce temps de pause, malgré la tension que ça a généré, ça fait du bien. Mais aujourd'hui, on a envie de se retrouver. Et en fait, l'humanité fait que c'est par l'homme et la femme qu'on retrouve de l'énergie. Sinon, tout seul, ça n'a pas de sens. Faire de l'architecture tout seul, ça n'a pas de sens.
Passe ton deuxième conseil d'architecture.
C'est pas si simple, parce que ça veut dire qu'il faut se reprojeter quel conseil je me donnerais à moi et à d'autres personnes.
Ouais.
Mais je pense de réussir à gérer un peu son ego. C'est-à-dire l'ego nous maintient dans une volonté ostentatoire de créer des bâtiments, parce qu'on a souvent mis l'architecte au firmament. Hein. Quand on regarde l'histoire de l'architecture, les pharaons, ils avaient l'architecte avec eux. C'était des classes sociales très élevées. Donc on est dans un monde de compétition. Hein. Faut pas se mentir, hein. L'architecture, faut gagner des concours, faut avoir des commandes privées, sinon on ne travaille pas. Alors ça veut pas dire qu'il faut énormément de projets. Chacun le fait à sa manière. Donc déjà, premier conseil, suivre sa propre voie,
ouais.
Ne pas se comparer. Moi, je me suis beaucoup comparé, ça m'a fait du mal, je pense, surtout avec les réseaux sociaux, cette profusion d'images des fois. Donc, ne pas se comparer, suivre sa voie, véritablement, et modérer cet ego. Il en faut, véritablement, pour oser prendre des positions claires dans une ville, en ruralité, dans un site, par rapport à une histoire personnelle. Des fois, on peut se mettre en opposition à des gens qu'on aime, dans notre manière de faire, qui peut être un peu vécue comme violente dans une intervention urbaine ou dans un projet. Mais voilà, suivre sa voie, et partager, quoi. Quand je parle de modérer son ego, c'est-à-dire être prêt à partager énormément d'expériences, ne pas se mettre au centre de tout, ce qui peut être le cas, des fois, les politiques nous amènent de temps en temps à penser qu'on a la vérité. Quand on a un moment où on gagne énormément de projets, on peut être tendance, donc là, on a l'impression d'être très important, mais au final, faut quand même modérer ça. On peut être important dans une certaine action, mais je pense qu'il faut une grande distance quand même par rapport à ce métier. Enfin, moi, je crois... Après, ça dépend où on veut aller. Si on veut aller tout en haut, on sait ce qu'il faut faire. Il y a des manières de voir la façon de concevoir ce métier. C'est vrai que si on veut aller vraiment très très haut, qu'on a une forte ambition qui brûle, à un moment, il faut se mettre quand même au centre du truc. Mais j'espère que le sentiment que j'ai actuellement, c'est que l'architecture est en train de revenir tout doucement au centre du débat. Je pense qu'il y a eu une année, enfin, des époques où vraiment les architectes étaient au cœur des débats politiques. Il y a de nombreuses années, ils sont encore reconnus pour des projets culturels.
Ouais.
On voit souvent les grands projets culturels, les grands musées. C'est ce qui fait un peu exploser les agences quand même. Quand on regarde l'histoire de l'architecture, quand on gagne un grand musée qui a un impact énorme pour la population et les gens dans une ville, dans une capitale, ou je pense comme Marseille, on pense au Mucem, tu vois.
Ou Franck Guéry à Bilbao.
Exactement.
Qui a totalement changé la ville rien qu'avec un bâtiment.
Quand on connaît Bilbao à l'époque, moi, ma grand-mère était d'une ville juste à côté, grand-mère espagnole, une ville industrielle. Hein, quand on voit l'implantation du bâtiment et tout ce que ça a généré derrière, l'histoire est folle. Hein. L'histoire est folle, ça a modifié une ville. Donc oui, là, on a un impact, et même à très petite échelle, on a un impact fort. Hein. Je vois, nous, ce qu'on fait dans le quartier avec notre association Gotham, l'impact qu'on peut avoir sur l'appréciation des gens sur l'espace public, dans le choix des artistes, des œuvres, des interventions architecturales, on se rend compte qu'en se rapprochant des gens, que c'est non négligeable. C'est énorme, en fait, la responsabilité qu'on a. Architecte, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, nos clients, tous ensemble. Hein. Parce qu'un architecte seul, là, il faut des gens qui prennent les risques pour payer des projets, pour suivre des histoires. Hein. C'est des récits qu'on raconte. Et
ils sont même tous différents. Une fois que c'est construit,
ouais, il faut le tenir.
La pré-construction, ça doit être quelque chose aussi.
Ah, cette émotion, elle est intense. Moi, on en parlait un peu tout à l'heure, quand des fois, on a des moments de doute. Je pense qu'il faut vraiment rester positif. Tu as raison sur cette... C'est une passion, hein, ça brûle. Hein, tout acte de création, il nous en reste un peu dans l'architecture. Il est brûlant, on n'en dort pas, on se réveille, on dessine, on écrit. Le cerveau, il ne s'arrête jamais. Quoi. Parce qu'on a une soif tellement forte de produire des choses, je pense. Et quand je parle de production, c'est de construire,
ouais.
D'être entouré de nos entreprises, d'amener une idée au bout, de voir des sourires, d'accepter la critique. C'est très important. Du coup, ouais, non, c'est un métier passionnant. Mais dans les conseils, ouais, comment gérer cette brûlure?
Ouais, cet ego.
Cet ego, ce truc qui donne envie. Des fois, on a des moments de doute, mais c'est pas grave, quoi. C'est là où le partage fait du bien.
Ouais.
Nous, on a monté un GIE il y a peu de temps avec 6 agences d'architecture.
Un groupement, GUE pour ceux qui...
C'est un groupement d'intérêt économique.
Okay.
C'est-à-dire qu'on s'est inspiré, c'est des comptables qui nous ont dit, on trouve nous par exemple entre comptables, on a créé un groupement où à plusieurs, on essaye de mutualiser les forces pour que les structures qui soient plus grosses aident un peu les petites et que les petites aussi aient un regard qui puisse permettre aux plus grosses structures de remettre en question certaines choses. Et donc on mutualise l'économie des projets, on mutualise l'achat du matériel, par exemple, ça paraît rien, mais regarder l'expérience de certaines agences qui ont été meilleures dans les négociations, qui ont un passif d'achat de logiciels, de matériel, de gestion d'agences, qui puissent aider aussi les plus jeunes. On se dit, c'est peut-être le moment en temps de crise de générer une force collective qui nous permettra, quand ça va repartir, de nous avoir fait du bien. Il y a une petite partie de psychanalyse interne, hein, ce qu'on disait de se parler entre architectes et entre hommes et femmes qui ont vécu des moments douloureux et des moments heureux, de se dire voilà où on en est, et aidons-nous les uns les autres. Vous êtes peut-être dans une phase complexe d'un moment de vie, d'un moment d'agence d'architecture. Moi je vois ça comme, quand je regardais des films, c'est quand on sait qu'on meurt, c'est l'encéphalogramme plat, quoi. Il y a une ligne. Hein.
Ouais.
Et quand la vie redémarre, c'est ça. Et les agences d'architecture, c'est pareil. On a des moments de grande joie, on gagne un concours, tout le monde fait la fête, on partage, c'est de grandes émotions, parce que c'est beaucoup de travail, d'investissement. Et des fois, on en perd 5, 6, 10 de suite. Ouais. Et là, on se dit, ça n'a plus de sens, on n'est pas bon. On regarde les autres qui gagnent à côté. Là, il y a des moments difficiles. Et c'est un travail d'équipe. Donc, quand on rentre dans l'agence, que l'équipe nous dit, bon, mais on a reçu la lettre, on a perdu. Tu vois, là, toute la journée, tout le monde tire la gueule. C'est des moments qui ne sont pas agréables, mais qui font partie de la joie. Parce qu'il faut connaître aussi ces moments difficile pour être tellement joyeux de gagner un concours avec toute l'énergie qu'on a mise. Donc c'est ça, moi je vois, c'est des hauts et des bas. Et si je devais me donner un conseil, ouais, c'est de ne pas se décourager. Troisième conseil.
Tu prends ce qui t'inspire.
Troisième conseil. Alors vraiment, ne jamais oublier de rêver.
Ah, ça, j'adore.
Et ça, on parlait de récits, alors peut-être qu'on... Ça dépend des pays, je ne sais pas. Parce que tu vois, on nous a souvent reproché en France d'avoir une manière d'aborder le projet dans les écoles d'architecture, très lyrique, tu vois, extrêmement orienté autour sur une certaine vision, peut-être un peu moins mathématique, un peu moins structure que certaines écoles. Quand on voyage, on voit les écoles en Espagne, en Italie, il y a une grosse culture presque polytechnicienne, quoi, de l'approche en Angleterre aussi. Mais en même temps, c'est notre force. À des moments, on voit qu'il y a quand même des architectes français reconnus dans le monde entier pour leur approche. Donc moi je pense que cette notion de rêve, mais elle peut se décaler dans toutes les cultures. Quand je dis ça, en le disant, je pense que je me trompe aussi. C'est pas parce qu'on a une approche extrêmement structure du projet qu'on n'a pas cette approche poétique et lyrique. Mais en tout cas, nous, je pense que la spécificité française dans les écoles, je trouve, j'ai pas fait toutes les écoles, c'est d'avoir cette approche du projet très conceptuelle,
ouais.
Qui moi me plaît parce que c'est ma culture, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu. Non, mais...
C'est la grande force que j'ai trouvée quand j'ai fait mes études en France, c'est cette approche lyrique, effectivement, et aussi hyper contextuelle. Mmh. Et ça, je ne m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je travaille avec, que je rencontre des architectes un peu internationaux. Mmh. Ce côté de, on va analyser le site, on va dégager une problématique, et du site naît notre concept.
Ouais, tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est vrai que c'est... Alors, est-ce que c'est européen, français, mais... moi, j'avais des cours de l'histoire de l'architecture contemporaine par Françoise Fromono,
ouais,
à la Villette, que j'ai vraiment adoré. Et elle faisait une espèce de répertoire de ces différentes façons d'aborder l'architecture diagrammatique, un peu par Coulasse à une époque, du territoire, par tous les landscapers, les gens qui prenaient vraiment acte du site avant d'intervenir. Et après, elle parlait d'un mix entre tout ça, d'une façon de faire contemporaine, de fusion entre le site, le concept, l'approche technique chiffrée. C'était très beau de voir toute l'histoire de l'architecture. Et c'est vrai que je me disais, elle est tellement vaste, la façon de faire notre métier. Parce qu'il y a de l'artisanat dans cette façon de faire. Donc ouais, continuer à rêver. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure dans nos échanges de relancer la machine.
Ouais.
J'ai vu un reportage sur un astrophysicien qui parlait de l'espace plié. C'est-à-dire qu'il racontait que, comme en musique, un son tenu n'est jamais tenu. Il se relance, il s'arrête et il repart. Et que l'espace, il n'est pas infini. Donc je ne sais pas s'il a raison ou pas, je ne suis pas assez performant sur ça. Mais en tout cas, je trouvais extrêmement beau la simplification de ces mots pour rendre abordable une thématique compliquée. sur l'espace plié. Par contre, ça me touchait, je venais en architecture, même si on pense avoir fait certaines choses sur 10-15 ans, on a des moments de vie qui font, voilà, il y a des plis qui arrivent, on a peut-être envie de faire d'autres choses, de réorienter notre pratique, parce que avoir toujours le même concept linéaire, je trouve ça un peu ennuyeux aussi, même si c'est beau. Ça peut être ennuyeux, quand c'est fait sur une vie, ça peut être très beau aussi.
Oui.
Il y a des architectes, mais en tout cas, moi, dans ma pratique, j'aime bien cette diversité, mais c'est mes sensations propres. Et cette notion de rêve constante, elle est importante, quoi. De jamais s'arrêter, d'avoir envie de surprendre ou de se taire à travers une idée, une image, une couleur, une odeur, une rencontre.
Un matériau.
Un matériau, c'est ça, quoi, l'architecture. Mais ça peut être aussi une structure mathématique, ça peut être un détail d'assemblage, c'est tellement vaste. Mais ouais, le rêve, en tout cas, moi, il me maintient dans les moments difficiles. Et c'est vrai qu'une image que tu as rêvée, que tu arrives à transposer dans un projet qui arrive à terme, parce que l'aboutissement de tout ça, quand même, pour moi, c'est l'acte de la construction qui est magique, où là, toutes les années passées, des fois, ça prend 7, 8, 10 ans, la maturité d'un projet. Il y a plein de circonstances qui font qu'il ne peut ne pas sortir. Et les plus beaux, c'est ceux qu'on a presque oubliés, qui sont encore là, à l'intérieur. Moi, j'appelle ça le cimetière des projets à l'agence, quand on ouvre le serveur et qu'on voit les 100 projets qu'on n'a pas fait. Et de temps en temps, il y en a un, pouf, qui ressort, on ne sait pas pourquoi, économiquement. Il y a un moment qui fait que ça y est, là, il ressort. On t'appelle, tu dis oui, c'est pourquoi. Oui, mais il va falloir relancer ce projet. Et là, ceux-là, là, qui sont presque oubliés, qui ressortent et qui sont de qualité... Moi, c'est des moments...
À la limite, ça doit être des moments magiques. Hein.
C'est magique. Et c'est vrai, quand on donne les clés, l'acte très symbolique de dire juridiquement, c'est plus notre chantier. Parce qu'un architecte ou une architecte, quand on est sur notre chantier, il nous appartient un peu. Juridiquement, pour tout ce que ça représente de responsabilité. Bien entendu, ça appartient au client. Parce que ça veut. Mais il y a quand même une notion, quand tu regardes bien les textes, où tu es presque aussi responsable que le client de l'œuvre que tu es en train de générer. Après, l'œuvre, il faut faire attention dans les mots. Hein, en tout cas, on est maître d'œuvre, donc c'est le cas. Il faut voir...
Dans la définition purement théorique du terme.
Et moi, je me suis souvent posé la question sur cette notion d'œuvre. À quel moment c'en est une vraie ou pas? Qui peut dire que c'est une œuvre ou pas? Est-ce que la plus belle œuvre, c'est celle qui est acceptée par le corps social, par les gens, qui reste une référence? Est-ce que c'est pas là que ça fait œuvre? Plus que quand on pose un bâtiment quelque part, est-ce qu'un bâtiment industriel peut être une œuvre? Moi, c'est une question que je me pose encore.
Je pense que c'est vrai que la perception du public, je pense que ça joue beaucoup dans la définition de ce qu'est une œuvre.
Oui,
je prends par exemple les films. L'exemple qui me vient en tête, c'est Star Wars, les tout premiers, l'Empire contre-attaque. On considère aujourd'hui que c'est une œuvre, mais c'est peut-être pas forcément juste grâce à sa qualité filmographique, mais par rapport à la perception et à la passion que ça a engendré.
T'imagines, c'est vrai que le cinéma, on en parle, on est assez fans de cinéma tous les deux, et c'est très lié à l'architecture.
Encore un grand merci à Jérémy pour m'avoir accueilli à Bordeaux dans son agence et surtout nous avoir offert un épisode aussi riche. Vous pouvez retrouver son travail et lui-même en tapant Nado Architecture sur Google, mais aussi sur Instagram, tout en tapant Nado Architecture aussi. C'était Anas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, abonnez-vous. Et à la prochaine.